Bien, donc nous, l'heure est là. Nous allons donc commencer et nous sommes heureux de nous retrouver. Peut-être d'autres personnes vont se joindre à nous. Je propose qu'on se recueille juste un instant. Merci Seigneur pour la joie de nous retrouver. Merci pour ces moments et bénis-les. Nous voulons nous remettre à toi et nous voulons apprendre de toi. Nous voulons être fortifiés, encouragés. Et Seigneur, que ces rendez-vous du mardi puissent être une bénédiction pour chacun. Bénis aussi et garde ceux qui sont peut-être en chemin et conduis cette soirée. Au nom de Christ. Amen. Alors, je ne vous cache pas que pour préparer ce sujet, j'avais beaucoup d'embarras pour la première réunion et la deuxième. Parce qu'en fait, ce que je voulais, j'ai très à cœur de que l'on puisse regarder la Bible convenablement, en la respectant. Il y a des attitudes, des clés pour cela. Et surtout, on entend de plus en plus aujourd'hui, vu les temps dans lesquels on est, des choses absolument farfelues. Et parfois, on croise des chrétiens qui nous disent « Il est écrit !» Alors, tout d'un coup, on a un petit « Quoi ? Mais où t'as vu ça ?» etc. Et donc, c'est un petit peu déstabilisant. Alors, j'ai voulu faire une introduction, mais cette introduction nécessaire m'a amené à faire une introduction de l'introduction. Et j'en suis à ma troisième. Et la première introduction que je voudrais faire, je voudrais commencer par cela, c'est au fond le sujet de ces 10 prochaines études, c'est vraiment notre rapport avec la Bible et notre compréhension, comment on la regarde, comment on la garde, comment on en profite et comment nous allons pouvoir vraiment l'utiliser de façon sage. Alors nous allons, pour démarrer, il n'y a pas plus beau que le psaume 19. Alors j'espère que vous avez amené vos Bibles parce que il n'y aura pas de PowerPoint ce soir, hein. Donc ni de diapo. Donc on va regarder le psaume 19. C'est un psaume absolument remarquable parce que, vous voyez, je voulais parler de la prophétie, après je voulais parler de la Bible, après je voulais parler de la compréhension, les clés de pour interpréter la Bible. Et puis après, ça m'a mené à la pensée, mais au fait, est-ce que nous savons comment Dieu parle? S'il existe, comment parle-t-il? Et vous connaissez peut-être, la volée de la trilogie de Marius, et dans le troisième volet, il y a un dialogue absolument incroyable en disant « Mais nous savons que nous adorons le vrai Dieu. Mais les autres qui adorent ce qu'il ne faut pas, le savent-ils ?» Et puis commence une conversation absolument remarquable sur « Mais qui a raison ?» Et on va répondre à ces choses-là. Et ça vaut la peine quand même d'aller lentement et sûrement et d'avoir tout le panorama. C'est pour ça que, au fur et à mesure de la préparation des études, la chose a grossi, mais on va quand même toucher du doigt des choses fondamentales pour pouvoir répondre aux questions que les gens se posent et pouvoir nous-mêmes avoir un panorama plus complet. Parce que quand on zoome trop sur une partie de la vie et de l'histoire de l'humanité, on a un tableau partiel qui nous amène à des conclusions parfois erronées. Alors le psaume 19, comme vous le savez, se divise en deux parties. Et dans la première partie, vous avez la découverte de la communication divine avec l'humanité. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont jusqu'aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève d'une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre. extrémité et rien ne se dérobe à sa chaleur. Ici, nous avons un premier volet. Dieu nous rappelle, à partir du moment où, évidemment, nous devons accepter le concept que la création a un créateur. Alors déjà, c'est le premier pas. Il faut que ceux qui croient, croient que Dieu existe. Et Dieu nous dit, la création est en soi l'empreinte d'une sagesse qui nous dépasse. On ne peut pas, c'est difficile de s'y soustraire. Donc ça, c'est les cieux qui racontent la gloire de Dieu. Si j'écoute une œuvre musicale remarquable, il y a un musicien derrière. Si je vois un tableau, même tout simple, un vase avec une tulipe, je sais qu'il y a un peintre. Jamais me viendra l'idée qu'on a lancé de la peinture rouge, jaune et verte, et par hasard, c'était un vase et une tulipe. Ça ne se passe pas comme ça. Si on étudie, donc il y a, en fait, il y a plusieurs tomes hein, dans la création. Il y a les cieux, il y a la terre, il y a, avec tout ce qu'elle contient, et il y a la mer avec tout ce qu'elle contient. Donc, le jour instruit un autre. Et les hommes sont impactés par cela. Ils ne peuvent pas ne pas être impactés. Et c'est perturbant, parce que l'infinie complexité de la nature révèle une intelligence. Alors autrefois, on croyait que même la création et la matière est éternelle. Les scientifiques, à partir du Big Bang, se sont dit, mais peut-être il y a eu un commencement. Qu'il y ait un commencement ou qu'il y ait une éternité, de toute façon, il y a une éternité. Si elle n'est pas dans la création, elle est dans le Créateur. C'est ou l'un ou l'autre. Et dans les deux cas, cela dépasse notre intelligence. Mais ce n'est pas une raison pour s'en priver. Et leur retentissement parcourt toute la terre, le jour en instruit un autre. Le jour instruit, c'est le mot en hébreu transmettre, donner comme une source qui jaillit. Il y a des fleuves, les fleuves ont une source, et ça continue. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours connu la Garonne, dans le sud-ouest. Mais il y a une source qui jaillit, c'est continuellement. Et c'est le même mot qui est utilisé pour dire la création instruit continuellement qu'il y a un créateur. Vous voyez, l'un entraîne dans l'autre. Et puis après ça, tout d'un coup, verset 8, nous basculons sur une autre forme de révélation divine qui est la parole de Dieu. Alors vous avez quatre expressions différentes. La loi de l'Éternel, le témoignage de l'Éternel, les ordonnances de l'Éternel et les commandements de l'Éternel. Et quand tout ceci pour parler simplement de la qualité de la parole de Dieu et des effets. La loi de l'Éternel est parfaite et elle a pour effet de restaurer l'âme. Alors parfois nous serons plus dans la technique, dans des choses factuelles, mais n'oublions jamais que la Bible que nous avons restaure l'âme. C'est un des effets. Seule la Bible me révèle qu'un sauveur a porté toutes mes souffrances. Et les souffrances qu'il a portées, ce n'est pas simplement la souffrance de mes péchés, mais c'est aussi la souffrance des péchés des autres. Le témoignage de l'Éternel est sûr, il donne la sagesse aux simples. Vous voyez, parfois on pense, si je suis très instruit, si je connais beaucoup, je vais avoir les clés de la vie. Mais alors que feront les simples qui n'ont pas fait d'études? Mais s'ils ont la Bible, ils ont tout ce qu'il faut pour vivre. Ils n'ont pas besoin de 36 diplômes. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Alors une des grandes réussites du diable, c'est de faire croire que ce qui est droit, c'est automatiquement rabat-joie. Bon, si c'est droit, les règlements, les lois, c'est rabat-joie. Nous avons fait un appel tout à l'heure pour des compétences administratives. Bon, une église n'est pas une préfecture, hein, mais elle doit contenir de l'administration et des choses de droite. Et voilà, il y a des choses qui doivent être d'équerre. Hein. Et la vie, bon, c'est la vie, mais il y a aussi de l'ordre. Et même l'univers s'appelle cosmos, qui veut dire ordre. Hein. Donc, voilà. Donc il y a des conséquences très concrètes quand j'ouvre cette parole. Maintenant, comment vais-je utiliser? Est-ce que je suis convaincu que je peux recevoir la Bible comme étant vraiment la parole de Dieu? Alors, bien sûr, on va voir des clés pour bien l'interpréter, mais je dois être convaincu, et c'est un peu difficile, parce que nous allons voir que beaucoup de gens, à partir de la Bible, créent des systèmes nombreux et variés, n'est-ce pas? Et on se dit, mais alors, qui aurait raison? Bon, il n'y a qu'un seul code de la route, mais il y a énormément de façons de conduire. Et il y a énormément d'interprétations sur ce qu'il faut faire et pas faire sur une route. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi qu'il ne faudra pas hésiter à intervenir, à apporter au moins un témoignage ou poser des questions. Hein. Ce n'est pas une conférence, voilà, même si je suis là pour des raisons pratiques sur l'estrade, on est ensemble et on peut converser. Et si vous avez des renseignements, des détails à demander, il ne faut pas hésiter. Il y a dans 1 Pierre 3,15, un verset que j'aime beaucoup. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. 1 Pierre 3,15. Et le mot dans l'original de défendre, c'est le mot apologie, apologia. La foi chrétienne, la foi de la Bible, elle est défendable. Ce n'est pas du tout farfelu, ou il n'y a pas, ce n'est pas parce qu'il y a un côté spirituel et foi qu'elle n'est pas défendable. Et bien sûr, il y a plusieurs textes qui parlent de défendre. Hein. Dans le Nouveau Testament, on voit que les apôtres devaient discuter, parler, convaincre, répondre aux questions. Et ce sont des choses normales. À ce propos, si vous aimez la défense de la foi chrétienne, je l'ai téléchargé cette semaine et j'ai commencé à le lire, c'est un régal. C'est l'apologie de Tertullien. Qui a été un homme qui vivait, donc, qui est né en 160 et autour de 200, il a voulu défendre bec et ongle les chrétiens. Alors, c'était le fils d'un centurion. Il était romain, il était très doué intellectuellement et il était devenu spécialiste du droit romain. Et sa plus grande joie dans la vie, c'est de vivre comme un païen le plus débauché possible. Et il était très heureux d'aller au cirque, de voir les chrétiens se faire massacrer. Il jubilait de cela. Et puis quand il les a regardés d'un peu plus près, d'abord il a été surpris que plus on les tuait, plus il y en avait. Et il a complètement changé. Et a finalement, il a dit, mais ils ont raison. Ils ont raison. Il s'est converti. Alors l'apologie de Tertullien a ceci de merveilleux, c'est que quand on lit, il y a des moments où on pense être dans l'Empire romain. Et on voit comment il traitait avec les autorités, comment les chrétiens se comportaient par rapport à ce qui se faisait dans la ville. Vraiment, on est plongé dans les premiers siècles. Et la défense de la foi est remarquable. elle est remarquable. Et on s'aperçoit finalement que la foi chrétienne, devant ce système de vie que proposait le principal empire de l'époque, était bien plus riche, bien plus profond. D'ailleurs, une des choses qui aide à être convaincu de la parole de Dieu, c'est la profondeur et la richesse qui s'en dégage et qui permettent de vivre cette vie. Alors il y a cette défense. Aujourd'hui, la Bible est devenue accessible vraiment à tout le monde. Dans un sens, c'est une très bonne chose. On ne peut que s'en réjouir. Mais, comme je vous l'ai dit, il faut faire attention de ne pas lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Et parfois, on peut, par malhonnêteté intellectuelle, insister sur des passages au détriment d'autres. La Bible nous dit, puisqu'on est dans Pierre, regardons 2 Pierre 3,16. 2 Pierre 3,16, où il est dit, il y a des gens qui sont mal affermis. Et Pierre reconnaît que dans certains écrits de Paul, il y a des choses difficiles à comprendre. Donc, deuxième lettre de Pierre, chapitre 3 et verset 16. Et peut-être, voilà, pour vous faire parler un petit peu, si quelqu'un l'a sous les yeux, il peut le lire juste le verset 16.
Il l'a fait comme dans toutes ses lettres où il aborde ces sujets. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens, comme elles le font aussi pour leur propre ruine des autres textes de l'Écriture.
Merci. Voilà. Donc là, ici, nous découvrons la possibilité de tordre l'Écriture. Et alors, sur la nature, on ne peut rien, à part de la détruire un peu plus et de ne pas regarder, de ne pas contempler le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Par rapport à la parole de Dieu, on peut la détruire, on peut tordre le sens. De Timothée, on va lire aussi De Timothée, chapitre 2 et verset 15, quelques pages avant, donc vous avez 2 Timothée, chapitre 2 et verset 15. Quelqu'un l'a trouvé, peut le lire ?
Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité.
Voilà. Qui expose avec droiture ou qui dispense droitement. Il y a plusieurs façons de le dire. En fait, l'idée derrière, la traduction, c'est de pouvoir trancher, couper droit. C'est littéralement ça. On peut couper la Bible, mais il faut la couper droitement. C'est-à-dire que chaque fois que j'ouvre la Bible, ou que je vais entrer dans une vérité, dans un passage, évidemment, j'ai pas la plupart du temps, et heureusement, même le dimanche matin, j'ai entendu des prédicateurs qui ont cette tendance, on ne peut pas passer le message en essayant d'expliquer toute la Bible pour arriver à cette vérité-là. C'est trop de temps. Donc on est obligé de pointer du doigt une vérité, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de l'ensemble. Nous allons faire un petit exercice. Nous allons regarder le psaume 110. Le psaume 110 que vous allez retrouver utilisé par deux personnes qui expose la situation de Jésus-Christ. Alors, ces personnes-là vont utiliser une prophétie de l'Ancien Testament, le psaume 110, et ce psaume qui est là va être réalisé des siècles plus tard Il est intéressant déjà de voir comment on manie la parole de Dieu. Alors le psaume 110 nous dit « Parole de l'Éternel à mon Seigneur ». Donc littéralement « Parole de Yahvé à Adonai ». « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. » Connaissez-vous qui a utilisé ce texte dans le Nouveau Testament ? Deux personnes. Féliciano. Pardon ? Je ne comprends pas. Enlève le masque un instant. Si. Non, il y a. Non, je préférerais avoir deux noms de personnes.
Le diable ?
Non. Enfin, sauf erreur. Non. Ah, c'est vrai, il y a aussi. Il y a hébreu, hein. Oui, hébreu. Oui. Mais des noms, j'aurais voulu des noms. Alors, d'abord Jésus-Christ. Regardez, on va regarder Matthieu 22. Matthieu 22. Et là, nous allons voir Jésus-Christ qui va dispenser droitement la parole de Dieu. Il va la couper. Il va juste prendre une vérité, mais quand on prend une vérité, il ne faut pas que ce soit pour démolir la suivante. Et là, qu'est-ce que nous lisons ? Matthieu 22, 41, « Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous de Christ ? De qui est-il le Fils ?» Ils lui dirent de David. Tous les Juifs disent que le Messie, c'est le fils de David. Ça, c'est clair. Alors, si Jésus est le fils, pourquoi l'appelle-t-il son Seigneur ? Et donc, il fait référence à ce texte. Donc, il va accentuer le tout début du psaume. Quand l'apôtre Pierre prêche la résurrection de Christ, acte 2, il reprend le psaume 110 et parle de la suite « Assieds-toi à ma droite » en disant que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Et Pierre va souligner la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, va prendre le passage et souligner tout simplement le fait que le Messie est aussi le Fils de Dieu et qui est appelé Fils de David. Alors, il a été. Félicien nous a cité Hébreux 1. On va aller aussi pour être complet. C'est bien parce que je ne t'ai pas allé si loin dans les références. Alors, d'abord le chapitre 1, verset 13. Voilà. « Auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ?» Donc ici, le contexte, c'est Jésus-Christ est supérieur à toutes les autres créatures. Voilà, donc l'exemple que je voulais mettre en avant, c'est de couper droitement la parole de Dieu. Et si on prend qu'une partie d'un texte, il ne faut pas que ça devienne une manipulation pour faire dire une contre-vérité. Vous savez, on peut manier le cerveau humain d'une façon remarquable et induire en erreur parce qu'on a une malhonnêteté au départ. La Bible est un ensemble hyper cohérent, hyper solide. Et on ne peut pas l'interpréter de n'importe quelle manière. Je vais vous donner un petit exemple où je vais vous induire en erreur. C'était un jour, il pleuvait énormément. Et la maman est vraiment désolée parce que le temps est épouvantable. Et elle voit ses enfants. Qu'est-ce qu'ils sont malheureux, qu'est-ce qu'ils sont tristes devant toute cette pluie. Alors voilà, vous êtes en train de vous bâtir le schéma. Et voilà, éteignez les téléphones, merci, on devrait le dire. Et donc, où en étais-je? Donc, vous vous êtes fait une représentation. Qu'est-ce qu'ils sont malheureux, ces pauvres petits, avec le temps qu'il fait. Et la fin du texte, c'est « Je devrais peut-être les laisser rentrer. » Donc, tout d'un coup, on s'appelle « Ah, mais les enfants sont dehors, alors que l'on pensait qu'ils étaient dedans, et ils étaient tristes de ne pas pouvoir aller jouer dehors. » Vous voyez, on peut, si on retire un verset de façon inappropriée, on peut créer des suggestions. Et ça se fait beaucoup. Ça se fait beaucoup dans les milieux évangéliques où on prend un verset comme ça. Et bah, l'exemple le plus redoutable, c'est ce passage dans le Nouveau Testament où il est dit, voilà, parmi les prophéties à venir, voilà ce que vous ferez, vous saisirez des serpents, ils ne vous feront aucun mal. Alors il y a des églises qui ont des cérémonies le dimanche matin où il y a une caisse avec des serpents et ceux qui ont la foi viennent prendre des serpents. Est-ce que c'est ce que Dieu a voulu dire? Mais pas du tout. Pas du tout. Donc, beaucoup de choses seraient à dire. Il faut la découper droitement. Après, bien sûr, il y a ceux qui la découpent de façon à la dénaturer. Il y a Thomas Jefferson, un président américain, qui n'aimait pas les miracles dans le Nouveau Testament. Alors il a découpé, il a pris des ciseaux, il a enlevé tous les miracles, et il a fait une Bible, Jefferson, sans les miracles. Bon, peut-être que, malheureusement, nous devons dire que cet homme a passé 3 ans en France en tant qu'ambassadeur, et était ébloui par les philosophes, et voilà, là... Je ne dis pas qu'il y a une cause à effet, mais il est revenu finalement en doutant de tout. Hein? C'était dommage. Alors, Marc 4, 34 nous dit, en particulier d'expliquer tout à ses disciples. Expliquer. Ça, le mot expliquer a le sens de délier, dénouer, éclaircir. Il y a plusieurs mots grecs. Pour ceux qui aiment le grec, c'est le épiluo, ça veut dire délier carrément, éclaircir. Il y a un autre mot qui s'appelle diarménéo, qui donner du sens. Le Seigneur, Luc 24, 27, c'est un beau passage, le Seigneur leur enseigna dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Et le Seigneur a dû expliquer sa venue, sa présence, sa nature était établie dans les Écritures. Et souvent nous parlons, quand on parle prophétie, on pense automatiquement à la fin du monde. Mais sachez qu'il y a beaucoup de prophéties bibliques qui sont déjà accomplies et qui sont tout aussi intéressantes. Et un jour, j'ai croisé un conférencier qui m'a dit « J'ai intellectuellement... j'ai décidé d'accepter Christ parce que j'étais vraiment fervent d'étudier l'Ancien Testament et en voyant que 300 prophéties concernant Christ se sont réalisées des centaines d'années après qu'elles aient été écrites m'a convaincu de la parole de Dieu. Et puis vous avez un autre mot, herménéo, qui va donner le mot en français herméneutique. Donc, qui est la science d'interprétation de la Bible. Alors, si vous regardez des programmes de théologie dans des instituts bibliques, vous avez des cours d'herméneutique. Alors, je vais en distiller de l'herméneutique, mais on ne va pas faire que de l'herméneutique. Hein. Mais on va quand même y venir. Marc 12, 24. N'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc nous sommes vraiment appelés à comprendre. La foi n'est pas simplement un sentiment, c'est aussi de comprendre. Il s'agit de relier le texte à son contexte. Il y a des textes qui n'ont de sens que lorsqu'on comprend leur destinataire et l'époque dans laquelle ils ont été donnés. Je vais vous donner un exemple tout simple. Et le bon sens va vous permettre de vous rendre compte que vous ne pouvez pas appliquer ce texte. Quand dans Matthieu 10, verset 5, il est dit « N'allez pas vers les païens ». C'est Jésus-Christ. Ça veut dire quoi ? Alors que plus tard, il est dit « Allez jusqu'aux extrémités de la terre ». Il y a une explication. Donc, si on ne prend pas le temps de voir l'explication, on ne peut pas partir au quart de tour parce qu'on a vu une phrase dans la Bible. Hein ? Alors, Dieu interagit avec l'humanité selon des époques spécifiques. Et bien sûr, aujourd'hui, nous sommes dans une époque où Dieu parle par sa parole et son peuple est l'Église. Nous aurons l'occasion d'y revenir. L'Église n'est pas prophétisée dans l'Ancien Testament. Elle ne s'y trouve pas. L'apôtre Paul la présente comme un mystère caché de tout temps. Avant l'Église, il y avait Israël. Si on va au tout début de l'humanité telle que la Bible nous le présente, il y avait le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, Dieu a donné un contrat avec l'humanité de l'époque. Bon, l'humanité, c'est un bien grand mot, c'était deux. Mais enfin, l'humanité, c'était voilà, vous ne toucherez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était un âge, c'était une période qui va être stoppé, évidemment, quand l'homme va décider de défier Dieu et de passer outre et écouter le tentateur qui disait « Dieu a-t-il réellement dit ?» Cette période-là, elle est finie. Il y aura d'autres alliances de Dieu avec l'humanité. Jusqu'à ce qu'arrive donc le peuple juif. Et qui sera après déterminant puisqu'il va donner la loi, puis arrivera la période que l'on appelle de la grâce et l'Église. Et quand on lit Éphésiens 3, on découvre bien toute la profondeur de la situation. Moi, Paul, apôtre des païens, hein, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens de vous écrire. Verset 5, il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme cela est révélé maintenant par l'Esprit aux apôtres et aux prophètes. Alors, apôtres et prophètes, c'est le Nouveau Testament. Ce n'est pas prophète de l'Ancien Testament et apôtres. C'est apôtres et prophètes. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers et forment un même corps. Et la détermination de Dieu, c'est de créer un âge avec un contrat, une alliance particulière, juif et non-juif, en se convertissant et en acceptant Dieu, deviennent un corps. C'est la nature première de l'Église. La Bible ajoute aussi ce mystère. J'étais donc fait ministre selon le don de la grâce qui m'a été accordée, moi qui suis le moindre de tous les saints, et je mets en lumière la dispensation du mystère caché. Et de ce mot dispensation, est venu ce qu'on appelle la doctrine dispensationaliste, où on reconnaît qu'il y a des âges et des façons d'opérer de Dieu qui va s'améliorer, se compléter ou s'adapter. Alors on dit d'un côté Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est absolument vrai dans ses attributs, sa nature. Mais avec les hommes, il va y avoir des changements. Et à un moment donné, Dieu va dire « Je me repens d'avoir fait l'homme sur la terre. » C'est abominable ce qu'ils arrivent à faire. Et donc, il va devoir s'ajuster, en quelque sorte. Et le mot « dispensation », c'est la traduction d'économie, « economia » en grec. Ceci est très intéressant parce que on connaît bien ce mot. Économie, littéralement, c'est la loi de la maison. Et on ne peut pas profiter de la Bible, profiter de sa parole, étudier les prophéties et les choses si on ne comprend pas qu'il y a une loi de l'économie. Quand les Juifs étaient en... nous allons le voir cela. L'économie entraîne un dispositif qu'il faut accepter. Hein? Le mot économie, nous le trouvons dans Luc 16, de rends compte de ton administration à l'économe infidèle. Administration, c'est économie aussi. On administre, Dieu administre les choses avec les hommes. Il y a eu la nature, et qui est toujours un message, qui est toujours, c'est toujours un livre ouvert. Il y a la parole de Dieu. Et puis, il y a aussi d'autres choses. Hein. La gestion de l'Église aujourd'hui, c'est une économie. La gestion d'Israël, passé, présent et futur, c'est une autre économie. Et quand Christ règnera vraiment, et que nous régnerons avec lui sur terre, comme le précise Apocalypse, nous serons dans une autre économie, une autre administration, avec des bouleversements et des choses qui n'existent pas aujourd'hui. Et la Bible dit que dans cette nouvelle économie, c'est le prophète Zacharie au chapitre 14 qui précise « Toutes les nations viendront chaque année à Jérusalem adorer le Seigneur à l'occasion de la fête des tabernacles. » Voilà un point administratif qui n'a jamais existé, qui ne s'est jamais fait, mais qui viendra, et des prophéties parlent dans ce sens. Et si on n'a pas quand même cette toile de fond d'économie, on n'arrive pas à comprendre les prophéties. On ne sait plus où on en est. Aujourd'hui, nous savons, par le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 10, 32 nous le dit, qu'il y a trois identités, les Juifs, les païens, et l'Église de Dieu. 1 Corinthiens 10, 32. Mais si j'ouvre le livre d'Ésaïe, par exemple, quels sont les premiers mots? Quelqu'un veut lire les deux premiers versets d'Ésaïe? Et vous allez être peut-être surpris déjà. Verset 2.
Vous, les cieux, écoutez, toi, terre, tends l'oreille, c'est l'Éternel qui parle. J'ai élevé des enfants, j'ai pris soin d'eux, mais ils se sont révoltés contre moi.
Alors, si je vous pose la question, à qui s'adresse ce livre? La prophétie concerne qui? Les Juifs, il est dit, prophétie d'Ésaïe sur Juda et Jérusalem. Bon, c'est très local. Mais le verset 2 est étonnant parce qu'il dit « Cieux, écoutez, terre, écoutez ». Et tout d'un coup, on découvre que les destinataires d'Ésaïe sont aussi toutes les nations. C'est comme un email, hein, il y a, vous l'envoyez à quelqu'un et puis il y a, comment ça s'appelle, CCI. Il y a tous les destinataires associés qui vont recevoir une copie. Alors la chose étonnante, hein, et nous allons y revenir là-dessus, c'est que il nous faut aussi avoir le regard de Dieu sur les religions en général. Pourquoi l'une serait vraie et pas l'autre? Et il y a quand même une contrainte pour nous. Tout d'un coup, il y a un entonnoir. Judas, Jérusalem. Et moi, si je suis la personne du verset 2 à l'extrémité du Nil, mais qu'est-ce que j'en ai à faire de Jérusalem? Mais pourtant, Dieu veut me parler. Et nous voyons dans l'histoire de l'humanité que c'est très difficile aux païens. L'administration que Dieu a choisie pour nous apporter ses richesses. Car il s'est lié à un peuple. Et c'est par un peuple que nous avons l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Sauveur. Nous pouvons comprendre finalement ce défi d'aujourd'hui. Si Israël existe, une haine sera grandissante parce qu'il y a un défi spirituel incroyable qui est lié à son existence même. Dieu n'est pas œcuménique. Et ça va à l'encontre d'une certaine sensibilité où nous aimons bien grappiller, tiens, un tel a une sagesse dans ce domaine, et on se fait donc on s'échafaude d'une religion composée. L'humanité vit avec des cultures différentes, des langues différentes et beaucoup de religions. Mais la Bible dit dans 2 Timothée 4 qu'à la fin des temps, les gens ne supporteront pas la sainte doctrine. Et bien sûr, toutes les religions, la pluralité des religions, sont confrontées à des exigences divines. Oui, il existe un Dieu créateur, mais Dieu parle d'une certaine manière, et nous voulons à tout prix qu'il parle d'une autre manière. Mais tant que nous ne cédons pas, on ne profitera pas de Dieu. On est obligé. Comme Caïn, il s'approche de Dieu et il offre quelque chose que Dieu n'accepte pas. Mais il est jaloux d'Abel qui, lui, a pris la bonne administration du moment, c'est-à-dire sacrifier un animal innocent. D'ailleurs, ça va être un point permanent qui va traverser tous les âges. Et bien sûr, ce traitement d'apparente faveur crée une jalousie incroyable. Ce que je veux dire par là, c'est que l'accès à la vérité est placé sous une contrainte divine que lui seul détermine. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à la connaissance personnelle de Dieu parce qu'il faudrait capituler sur ce point. Hein ? Et c'est vraiment, la religion peut se décliner de mille facettes. Hein. Nous avons parlé du langage de la création. Mais que dit Deutéronome 4,9? Veille sur ton âme. De peur qu'en voyant le soleil, alors ça aurait été merveilleux qu'en voyant le soleil, on dise, waouh, il y a vraiment là quelque chose d'extraordinaire, j'aimerais savoir qui l'a créé. Mais non, tu peux être aussi entraîné à te prosterner en sa présence et à lui rendre un culte. L'homme est poussé à l'adoration de la créature plutôt que du créateur, Et c'est souvent ce qui a été la genèse de beaucoup de religions. Romains 1, 27 nous dit, 25 dit, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Et je voudrais que l'on aille dans 2 Rois chapitre 17. 2 Rois chapitre 17, qui est un passage assez effrayant, au verset 6. Donc Israël sera à son tour, lui, on reviendra sur la notion du peuple élu, pourquoi Dieu choisit un peuple, on expliquera tout ça. Mais là, ça va très mal, et les Assyriens vont amener Israël captif. Cela arriva pourquoi ? Verset 7. Parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte. Ils suivirent les coutumes des nations. Et les enfants d'Israël, verset 9, firent en secret contre l'Éternel le Dieu des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes les villes. Verset 10, ils dressèrent des statues. Verset 11, ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux. Vous me dites, bon, c'est pas bien méchant ça. Pourquoi ne pas... Voilà, c'est une expression de foi, ça fait partie du folklore, des traditions. Mais verset 16, ils abandonnèrent les commandements de l'Éternel. Là, on parle d'Israël. Ils se firent des veaux d'or en métal, ils fabriquèrent des idoles, ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements. Et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Mais observons, La situation des religions, dans la plupart des cas, on retrouve des éléments. Et dans le comportement humain, il y a énormément de choses abominables. Et beaucoup d'entre elles vont vers la divination, vers les enchantements, vers l'occultisme. Et ce sont des choses qui ont toujours existé. Alors Dieu va faire quelque chose d'autre et nous devons faire exploser de notre tête la vérité sera le syncrétisme. C'est pas possible. Dans Acte 17, quand Paul parle à Athènes, il dit « Ce que vous adorez sans le connaître, je vous l'annonce. » Et il ne félicite pas les Athéniens, et il voyait toutes sortes d'autels, il en était irrité. Le syncrétisme, vous savez d'où vient ce mot ? Alors ce mot, dans le mot syncrétisme, il y a le mot crétois. Donc c'était les gens de la Crète. Et les gens de la Crète avaient la réputation d'être des menteurs et des fourbes. C'était leur réputation. Et syncrétisme, c'est union de crétois. Donc des crétois ensemble. Agir en crétois, c'est être fourbe, menteur, manipulateur. Et un penseur, Épiménide, qui vivait 500 ans avant Christ, affirmait que les crétois, effectivement, sont des menteurs. Et Paul va citer ce penseur. Leur propre prophète a dit « Crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux » et ce témoignage est vrai, Tite 1.12. C'est dur, hein ? Alors, faire des alliances, le syncrétisme, c'est vraiment pas quelque chose que Dieu cherche. Et la vérité ne sort pas de cet ensemble. À ceux qui fabriquent des idoles, vous avez Ésaïe 44, qui dit, mais voilà, l'homme n'a ni l'intelligence, ni le bon sens de se dire, je prends un arbre, je prends du bois, j'en brûle la moitié au feu, avec ce qui me reste, je fabrique une idole, je me prosterne devant elle, et je lui supplie de m'aider. Et Dieu dit, mais soyez intelligents. Est-ce qu'un bout de bois va vous aider? Et beaucoup de religions, regardez les religions, vous verrez que ça part souvent de la fabrication d'une idole, ou de la divination, ou de la manipulation, ou de la cruauté envers les autres. Et Dieu a une administration très précise pour communiquer avec l'humanité. C'est une porte un peu étroite et un chemin resserré. C'est vrai. Mais il est clair. Il est clair. Quand vous regardez l'histoire de Corneille dans Acte 10, on pourrait se dire, voilà, il y avait un homme qui priait Dieu, Dieu l'a entendu, il envoie Pierre. Donc on peut entretenir des prières sincères, hein. Mais quand on regarde de près le passage, il est évident que Dieu a entendu ses prières et a remarqué ses bonnes œuvres, mais il a donc besoin d'entendre l'Évangile, et Dieu lui envoie Pierre pour qu'il se convertisse. Donc ses prières et ses bonnes œuvres ne suffisaient pas, Dieu ne s'en contentait pas. Il lui fallait découvrir ce que Dieu lui-même avait préparé. Lui vivait dans son administration à lui, mais il fallait qu'il entre dans celle de Dieu. Ainsi, nous découvrons que de tout temps, l'homme a eu du mal à accepter les voies de communication de Dieu. Et c'est ce qui rend les choses plus difficiles. Mais une fois que nous avons compris et qu'on a un regard plus global de l'humanité, comment Dieu a parlé dans le passé et comment il parle aujourd'hui, eh bien, nous pouvons profiter pleinement de cette révélation. Et il faut que notre connaissance des choses ne soit pas un handicap, mais soit plutôt un tremplin pour aller plus loin. Dieu est exigeant dans sa façon de parler, mais quand quelqu'un bafouille quelque chose, Dieu quand même tend l'oreille, il veut savoir si on est prêt à apprendre plus et à découvrir plus. Alors je vais m'arrêter là parce que l'heure est déjà passée. Est-ce qu'il y a quelques petites remarques ou questions que vous auriez? Voyez, donc là je suis un peu encore dans l'introduction, j'essaie de placer un décor plus profond, plus général du sujet, mais je trouve que c'est quand même très intéressant d'avoir une vue la plus complète possible, qui met aussi tout en bonne perspective. Est-ce qu'il y a une question, quelque chose que vous voulez ajouter, hein, n'hésitez pas. Oh, tout le monde est... Oui, vas-y Jean.
Ce que je trouve d'autant plus incroyable, c'est que l'homme refuse les voies de communication de Dieu. Quand Dieu établit qu'il faut me connaître par telle voie de communication, et pourtant l'homme reconnaît la nécessité que pour faire quelque chose, pour arriver à un résultat, il faut suivre un protocole.
Oui.
Si on ne suit pas ce protocole, on ne peut pas arriver à ce résultat. Ah, ça, il l'admet. Mais quand Dieu dit, vous ne me connaîtrez pas, si vous ne suivez pas ce protocole, alors non. Non, on dit non. Non, c'est pas. Moi, je veux mon protocole à moi.
C'est vrai, c'est ça.
C'est d'autant plus incroyable.
Merci, c'est un bon résumé, oui. Tout à fait.
Quand tu parlais que c'est Dieu qui passe la contrainte divine pour aller vers lui, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne peut venir au Père que par moi. »
Oui, c'est simple, mais bon, c'est... Il faut accepter la part que nous ne pourrons jamais saisir sur Dieu tant qu'on est dans ce corps. Dieu est bien plus sage que les hommes. Et quand je vois la ferveur de certains religieux dans bien des... Voilà, Ça me fait penser à Romains 10, quand Paul disait de ses compatriotes juifs, « Ah, ils ont du zèle pour Dieu, mais ils ne sont pas sauvés. » Et donc, voilà, ils ont un zèle, mais sans intelligence, parce qu'au lieu de prendre le protocole de Dieu et la justice de Dieu, ils cherchent à établir leur propre justice. Donc, voilà. Et beaucoup de choses découlent de cela. Et nous verrons, c'est vrai que Israël, dans le passé, l'Église aujourd'hui, font partie du protocole divin pour communiquer des choses. Et je pense que si on a cette vue d'ensemble au départ, ça permettra après, quand on ira dans certains textes d'Apocalypse, on va étudier Apocalypse 12, 13, des passages remarquables sur la tribulation, ce sera plus facile de les mettre en place et en perspective. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour ce soir. Georges, tu veux bien nous conduire dans la prière? Merci.
Seigneur notre Dieu, nous voulons encore ce soir, à travers ta parole, reconnaître que tu es le seul chemin, celui qui est venu nous sauver, où c'est vrai que le voile s'est déchiré et que maintenant nous avons accès parce que tu as tout accompli à la croix. Et nous voulons te demander que ces études de la prophétie, eh bien, tu conduises toutes choses afin que nous puissions découvrir, Seigneur, le plan que tu as pour chacun de nous et de trouver aussi la richesse qu'il y a à travers ta parole. Nous voulons nous appuyer sur ta parole et pas sur nos propres pensées parce que tes pensées ne sont pas les nôtres. Et nous voulons nous laisser guider, Seigneur, dans l'humilité afin de te connaître davantage et toujours plus. Nous te demandons de nous accompagner et que ces paroles que nous avons écoutées, ces passages de ta parole puissent encore nous être imprégnés de cela et que nous puissions vraiment regarder à toi seul parce que tu es effectivement, Seigneur, celui qui a tout accompli et c'est à toi seul que nous voulons nous en remettre. Tu as le dernier mot, Seigneur, et nous savons que tu nous as préparé une place et nous voulons, Seigneur, justement, être reconnaissants de cette place que tu nous as préparée. À toi seul la gloire, Seigneur, et merci encore de ce moment de partage. Nous te le demandons à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen. Une petite annonce avant de se séparer. Ça serait sympa que les gens qui ont besoin d'exercice viennent sur l'estrade. On va faire un petit exercice et ouvrir le baptistère. Là, ceux qui ont plein d'énergie, là, voilà. Comme ça sera fait. Merci.